jusqu'à 13h, vous écoutez Laramée en direct avec François Laramée au FM 103.3.
On a un invité aujourd'hui qui est avec nous, intéressant, Martin Geoffroy, qui est professeur, directeur, professeur et chercheur, bien évidemment, au Centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux et la radicalisation au Collège Édouard-Montpetit de Longueuil. Ça se passe chez nous. Monsieur Geoffroy, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à l'émission.
Merci, merci d'être avec nous, effectivement, presque à la veille de Noël. Je pense qu'on vous fait travailler alors
un petit peu, oui.
Que vous pensiez être en vacances.
Mais vous n'êtes pas les seuls. Hein?
Mais c'est fini.
Ah, oh, génial.
Parce qu'on ne se le cachera pas avec l'actualité d'hier. C'est un, ouais. C'est un élément qui redevient d'actualité encore plus. Et puis, qui démontre aussi là, qu'il y a eu une espèce de problématique dans l'univers scolaire il y a quelques années à Montréal pour que des jeunes là, canadiens décident de faire partie du djihad. Là,
effectivement, c'est Collège Maisonneuve.
Oui, puis aussi cette semaine, il y a eu à Télé-Québec, ils ont projeté le documentaire « Où es-tu, Youssef? » qui était quand même très intéressant sur le sujet aussi. Donc, c'était un petit peu l'idée d'ailleurs, en arrière de tout ça, d'inviter M. Geoffroy avec nous aujourd'hui.
Oui, parce que c'est... Ça semble être, en tout cas, un sujet d'actualité, mais ça semble aussi important en termes de formation, de rayonnement aussi pour le Collège Édouard-Montpetit. Monsieur Geoffroy, c'est pour nos auditeurs à qui on essaie à chaque semaine de démêler les choses, le CEFIR, ça fait quoi dans la vie au Collège Édouard-Montpetit?
Bien, ça fait beaucoup de choses. Hein. C'est un centre qui non seulement fait de la recherche de pointe avec des chercheurs universitaires, les meilleurs au Canada, je peux le dire. Parmi nos co-chercheurs au CEFIR, on a Lorne Dawson, qui est professeur à l'Université de Waterloo, qui est un des seuls universitaires au Canada à avoir fait plus de 200 entrevues avec des ex-djihadistes qui sont revenus au Canada. C'est le seul à avoir accès à des données, parce que les nombres, quand on, tu sais, les djihadistes qui reviennent, c'est pas des gros nombres, hein, c'est des tout petits nombres. Mmh. Et on peut pas faire beaucoup de recherches là-dessus quand tu as une ou deux entrevues, puis baser une recherche là-dessus. Lui, on a fait plus de 200. Alors, on va piger, nous, dans ce pôle-là. On a des chercheurs comme ça qui connaissent, entre guillemets, leur affaire, qui basent ça sur des faits, non pas sur des opinions personnelles, justement. Mmh. Et donc, oui, il y a de la recherche de pointe qui se fait. Mais il y a aussi de la formation. Alors, on forme nos étudiants. Nos étudiants au Collège Édouard-Montpetit ont accès à des colloques qui sont parmi les meilleurs, avec les meilleures personnes au monde, comme cette session-ci, on a un colloque sur le fanatisme et la mort, avec des psychologues, des psychiatres, des gens qui sont venus de
Madame
France.
Madame Levray, entre autres.
Madame qui?
Monique
Loret, oui.
Loret, voilà,
Monique
Loret,
qui est venue de France, et qui sont des gens qui ont travaillé avec des ex-djihadistes sur le plan psychologique, sociologique, tout ça. On a expliqué un peu à nos étudiants, puis à l'ensemble de la population qui était présente aussi, quel était le lien entre le désir de mort qu'on retrouve chez certains individus qui sont fanatisés et qui sont prêts à mourir, en fait, pour une cause. Donc, on a expliqué ça. On a eu des gens qui sont venus de la police de Longueuil, qui sont venus assister à notre colloque. On a eu des gens de la Fédération des cégeps, des professeurs, des étudiants. Donc, on rejoint beaucoup de monde.
Donc, la formation, c'est un colloque.
Bien, la formation, ça peut être sous forme de colloque, mais ça peut être aussi comme une formation continue. Par exemple, pour les professeurs à l'intérieur du CEFIR, on a des professeurs de 4 cégeps de la Rive-Sud, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-sur-Richelieu et Collège militaire royal de Saint-Jean, qui sont ce qu'on appelle des professeurs praticiens, c'est-à-dire qui n'ont pas au départ de connaissances sur le phénomène de la radicalisation, mais qui participent de près aux activités du CEFIR et ce faisant, ont de la formation, une formation continue sur la radicalisation avec lequel ils retournent dans chacun de leurs cégeps après et eux-mêmes forment ensuite des profs, des cadres, etc. Et ça peut aller plus loin. On offre nos formations à l'ensemble de la population et par exemple, cette session, je suis allé faire une formation pour les juges de la Cour municipale de Québec. Qui nous ont demandé une formation.
Qui vous ont demandé aussi dans la...
Formation sur l'extrême droite.
De comprendre un peu plus et un peu mieux le phénomène.
Ben, d'expliquer le phénomène dans leur cas, c'était de l'extrême droite, parce qu'à Québec, comme vous savez, il y en a beaucoup. Oh, ben, il y en a pas mal à Montréal aussi, vous seriez surpris. Sur la rive sud, on a une petite meute à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Pour rappeler des événements plus malheureux à Saint-Jean.
Je
ne
veux pas interrompre personne, mais on parle de la meute, une dizaine d'individus. Moi, j'ai un chiffre que j'ai entendu tantôt. On parle de 200 300 djihadistes qui sont de retour au Canada.
Oui, c'est ce qu'il disait tantôt.
C'est ça.
Oui, 200, oui.
Mmh. 200. Au Canada.
Mais, au Canada.
Au Canada. Donc pour nos auditeurs, c'est 200 Canadiens qui ont souvent la double citoyenneté, qui ont quitté pour aller faire le djihad.
Et qui sont revenus.
Qui sont revenus. Puis qui sont en partie au Québec.
C'est ce que j'étais pour dire.
Il y en a beaucoup en prison, là, quand même.
Ouais, okay.
Ils sont pas tous en liberté.
Mais non, il y en a une partie en liberté aussi.
Est-ce qu'on a des chiffres pour le Québec?
Il y en a, oui. La GRC, tous les services policiers sont parfaitement au courant et ces 200 personnes-là sont connues et ceux qui ne sont pas en prison sont suivis, croyez-moi, de près. Donc, c'est pas... C'est des chiffres qui sont très minimes. Si on compare, par exemple, à la France ou à l'Europe, là, ici, là, c'est pas un phénomène, le djihadisme, très, très épeurant. Pour vous dire, dans l'histoire du Canada, depuis les années 90, l'attentat le plus meurtrier, c'est un attentat qui est venu des Tigres tamouls. C'est le vol Kanishka, qui était de Air India, qui était parti de Montréal.
Oui, oui, bien sûr.
Et oui, mais c'est ça qui a fait le plus de morts. Donc, on peut pas attribuer le terrorisme seulement à l'islam.
Il y a beaucoup de terrorisme chrétien et d'extrême droite.
Dans toutes les grandes religions. Et
même les falkistes étaient des terroristes à une certaine époque.
Mais tantôt, vous avez
d'où était venue l'idée de créer justement un organisme comme le CEFIR? Je veux dire, j'avais vu que vous aviez publié une lettre d'ailleurs dans le Huffington Post.
Oui.
Fait qu'un petit peu, d'où est venue un petit peu l'idée de vouloir créer ça?
Ben moi, je vais vous dire, j'étais un petit peu tanné que les initiatives de formation sur la radicalisation viennent d'en haut. C'est-à-dire viennent du gouvernement ou de sa branche, je dirais, qui est le Centre de prévention de la radicalisation de Montréal, qui est un centre qui est genre de think tank politique, qui est financé directement par la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec. D'ailleurs, au départ, ce centre-là, c'était la bête de Denis Coderre, un peu. On se demande un peu avec Valérie Plante, est-ce qu'elle va faire comme avec la formule électrique, est-ce qu'elle va garder ça ou pas? Mais c'est un centre qui a été financé, qui continue d'être financé. Il y a du financement direct, donc. Dans ce centre-là, on commençait à donner des formations dans les cégeps. Puis nous, les profs, quand on voyait ces formations-là arriver, on trouvait ça d'une simplicité déconcertante et même un peu dangereuse, d'ailleurs, parce que là, dans sa première année de fonctionnement, le Centre de prévention de Montréal, il parlait que d'islam radical. Fait que nous autres, on était mal à l'aise avec ça, parce qu'on avait des étudiants musulmans dans nos classes, puis on se voyait pas arriver et leur dire, on va juste vous parler d'islam radical. Puis moi, j'ai testé ça dans mes classes, puis quand je leur parle d'intégrisme chrétien, intégrisme juif, beaucoup plus réceptifs que si t'arrives juste, puis tu leur dis, intégrisme musulman, c'est pas bon. Et dans la première année, les formations qui étaient données par le Centre de Montréal, c'était juste l'islam radical. Fait qu'à un moment donné, on a eu cette idée-là, on va créer un centre fait pour et par des profs de cégep. On connaît ça, la formation, on les forme, nos étudiants. Étant donné que c'est un phénomène qui s'est passé, comme on le sait, beaucoup dans les cégeps, des jeunes qui sont sortis, là, qui viennent d'être libérés, venaient du cégep
Maisonneuve.
On s'est dit, nous autres, on veut faire un programme qui va être monté pour nous autres et par des gens de notre milieu, pas par des gens qui sont au gouvernement puis qui n'ont pas de contact avec la réalité
du terrain,
qui ne sont pas avec les jeunes. Moi, j'avoue que j'étais très mal à l'aise d'arriver puis de dire à mes étudiants musulmans, on va détecter la radicalisation dans les cégeps comme on voulait le faire à une certaine époque. Alors, de là, cette idée qu'on a eue de créer ce centre-là, et on est allé chercher les fonds pour le faire du gouvernement fédéral.
Ça fait combien de temps?
D'années? Ça va faire exactement... On a fêté notre premier anniversaire le 17 octobre dernier. Okay.
Il y a combien d'étudiants, Edouard Montpetit, qui ont suivi une formation?
Il n'y en a pas des tonnes encore. Vous savez, ça prend du temps à mettre en place un programme de formation, d'autant plus qu'on a de la recherche qui est alliée à ça. Mais à la prochaine session, on va avoir environ 90 étudiants qui vont faire des stages au SEFIR à travers un de leurs cours. En fait, on a un cours à la fin du DEC qui s'appelle « Démarche d'intégration des acquis en sciences humaines ». Et les étudiants doivent faire un projet là-dessus. Et donc, on va avoir environ 90 étudiants, ça va commencer la prochaine session, qui vont faire des projets de stage au SEFIR. Mais déjà, on a eu des étudiants des étudiants qui travaillent pour nous, en fait, qui sont des salariés du SOFIR. Okay. Donc, on engage les étudiants du cégep. Donc, on est un employeur en même temps. Fait que ça dépasse de loin juste la formation. Dans le fond, c'est une expérience professionnelle qu'on donne à nos étudiants parce qu'ils font de la recherche avec nous. Mm-hmm. En ce moment, par exemple, j'ai une étudiante qui est engagée par le SOFIR. Elle fait une veille sur l'extrême droite. C'est-à-dire qu'elle suit tous les sites d'extrême droite puis elle compile des données puis des statistiques. Mm-hmm. Comme ça, après, moi, quand je vais faire une conférence sur l'extrême droite, bien, j'ai toujours des données à jour. Et donc, c'est une étudiante, je la nommerai pas parce que mais c'est ça, elle est ça. Donc, elle est, ça va beaucoup plus loin que juste de la formation. On donne à nos jeunes une expérience professionnelle.
Donc, vous avez une véritable connaissance du terrain, comme on disait tantôt, et du milieu. Vous avez indiqué qu'il y avait plus ou moins 200 là, djihadistes qui étaient revenus au Canada. Au Québec, ça peut représenter combien en termes de nombre?
Il n'y en a pas énormément au Québec. Mmh. Il n'y en a pas plus que 10 ou 15 au Québec. Okay. C'est vraiment des nombres qui sont minimes. Puis c'est très difficile de faire de la recherche à partir de nombres aussi minimes que ça ou de tirer des conclusions. C'est pour ça que je disais, je suis toujours un peu...
Est-ce qu'on appelle des loups solitaires? Hein?
Non, c'est pas des loups solitaires. Ça, c'est une notion qui est beaucoup remise en question parce que, vous savez, aujourd'hui, les jeunes avec Internet là, sont jamais solitaires. sont sur les réseaux sociaux, ils parlent à du monde. C'est pas parce qu'on voit ça, c'est plus notre génération, à vous puis moi, on est plus âgés. Hein? Nous autres, quand on pensait de réseau, on pensait qu'on se rencontrait. Mais maintenant, pour être en réseau, t'as plus besoin de te rencontrer.
On le voyait très bien, d'ailleurs, dans le documentaire où t'es Youssef, où est-ce que tu voyais que la radicalisation passait énormément par le web et que tu voyais à Sherbrooke, vraiment, les gens de la communauté, où est-ce qu'ils interviewaient, ils allaient les rencontrer, puis ça avait rien à voir. Je veux dire, la radicalisation, tu comprenais assez bien dans le documentaire qu'elle était nullement venu de là, tu sais.
Ben, c'est sûr, il y a très peu de prise dans notre société, surtout notre société canadienne où, tu sais, on est très multiculturaliste, on est très tolérant envers tout ce qui est immigration puis tout ça. Puis dans le multiculturalisme canadien, on laisse, comment je pourrais dire, on laisse à tout le monde un peu d'exprimer sa religion sur la place publique, tout ça. On est très, très large. Si on compare à la France, qui restreint ça beaucoup.
Non, il y a une liberté.
Donc, à ce moment-là, une des raisons pour laquelle on a eu si peu de terrorisme, notamment djihadisme au Canada, jusqu'à maintenant, touchons du bois, mais si on en a eu si peu que ça, c'est parce que c'est à cause, moi, je pense en partie du multiculturalisme. C'est-à-dire que c'est très difficile d'arriver puis dire à un jeune musulman canadien, on restreint ta liberté de religion au Canada, parce qu'on est probablement un des pays où il y a la plus grande liberté de religion au monde. Donc, c'est pour ça que c'est difficile d'aller les chercher. Mais ils ont d'autres, justement, par Internet, ils ont, via la propagande, ils ont des outils efficaces pour aller chercher des esprits, disons, qui seraient plus susceptibles à tomber dans ces schémas-là. Et on sait, ce que la recherche nous montre, en fait, c'est que c'est des jeunes de 14 à 23 ans environ qui se radicalisent. Donc, c'est vraiment la population des cégeps. C'est pour ça que nous, on a décidé de fonder notre
centre. Ça commence
de
bonheur aussi.
Bien, auparavant, c'était 17 ans, mais depuis quelques années, ça a descendu à 14, oui. Et à ce niveau-là, nous, on essaie en ce moment de mettre en place, d'élargir notre programme aux écoles secondaires parce qu'on est obligé, là, avec l'âge qui descend. Mais nous, on se disait, on est avec ces jeunes-là. Alors, vous comprenez ce que je veux dire? On est mieux placé de notre point de vue pour faire des interventions qui sont des interventions éducatives.
Pour avoir une influence, finalement.
La prévention, tout ça. On est mieux placé pour imaginer des moyens de prévention que des organismes qui sont dans les universités, qui sont au gouvernement, à un autre niveau. Remarquez, on collabore, nous, avec les universités et avec plusieurs chercheurs universitaires. C'est essentiel pour nous. Mais en même temps, on a cet aspect d'être proche des jeunes qu'il faut cultiver.
Mais, M. Geoffroy, j'ai une petite question pour vous. En fait, vous êtes un spécialiste de l'intégrisme religieux. Vous êtes prof de cégep depuis plus de 20 ans. Vous dirigez maintenant le CP. Est-ce que les gouvernements, par exemple, le gouvernement de Couillard avec son projet de loi 62 qui a passé dernièrement, ou encore à l'époque, le gouvernement de Pauline Marois avec la Charte des valeurs, par exemple, est-ce que les gouvernements vous ont déjà consulté? Est-ce qu'ils sont déjà venus vous voir pour vous dire, bon, ben écoutez, monsieur Geoffroy, on pense à tel projet de loi, est-ce que vous pourriez nous aider? Est-ce que vous avez des interactions avec les différents gouvernements aussi?
Jamais.
Il n'y a jamais personne qui est venu vous voir avec votre expérience pour vous demander...
Jamais.
Bon, ben là, Carl, une fois élu, tu sais quoi faire.
Non, mais comment vous expliquez ça?
Faudrait leur poser la question.
OK, ben écoute,
mais moi, je vous dirais que...
Et pourtant, ils me subventionnent.
Oui, ben, le gouvernement dans le canadien. Fédéral.
Oui, oui, le fédéral. Mais je dirais que c'est assez intriguant parce que, étant moi-même québécois, entre guillemets, de souche, on a reçu plus d'appui du gouvernement fédéral que provincial. Mm-hmm. Une des raisons, la seule raison qu'il faudrait vraiment leur demander, que je pourrais imaginer, c'est qu'ils ont déjà leur propre centre, qui est le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence de Montréal, mm-hmm. qui subventionne à coups de millions.
Mais bon, c'est une source.
Et c'est eux principalement qui les conseillent en cette matière-là. D'ailleurs, le directeur du centre est le conseiller presque privé de Philippe Couillard. Quand Philippe Couillard a donné son discours après l'attentat de Québec d'Alexandre mm-hmm. Bissonnette, le directeur du Centre de prévention de la radicalisation était derrière lui puis il a passé des papiers. On l'a vu à la télévision, il a passé des papiers, il a écrit son discours un peu. Donc, ils ont leur propre centre mm-hmm. Et ils ne sont pas trop intéressés peut-être à des centres qui n'iraient pas directement dans la direction de la politique gouvernementale. Moi, c'est la seule chose que je peux imaginer pourquoi ils ne me consultent pas. Okay. L'autre aspect aussi, c'est que je me suis retrouvé une fois par hasard devant la ministre Catherine Vail, mm-hmm. ministre de l'Immigration. Mm-hmm. Et quand je lui ai dit le nom de mon centre, elle m'a dit « Ah, ben nous, on touche pas à ça, les intégrismes religieux. » Je pense que c'est cet aspect-là peut-être qu'il les met mal à l'aise. Ouais. Ils veulent pas faire le lien entre intégrisme religieux et radicalisation. Nous, on est le seul centre au Québec, en passant, à le faire.
En fait, c'est quand même étrange parce que, bon, j'étais en France pour la dernière campagne électorale en France. Et en France, c'est le phénomène complètement contraire. Où est-ce qu'ils ne touchent qu'à l'intégrisme religieux et non pas musulmans. Les musulmans exclusivement
oui.
et à aucun autre?
Oui, c'est un gros problème en France.
Tout à fait.
On est allé avec mon étudiant recenser les initiatives anti-radicalisation de Bordeaux en juin dernier. Et ça a ressorti de toutes nos entrevues. On ne parle en France que de djihadisme. Mais c'est comme au Québec, avant l'attentat d'Alexandre Bissonnette. Le Centre de prévention de la radicalisation de Montréal, dans sa première année d'existence, ne parlait que de ça. Puis là, pouf, comme beaucoup de monde, ils se sont réveillés. Mm-hmm. Moi, ça faisait longtemps que je leur disais « Attendez, ça s'en vient ». Mais, je pense que la recherche mondiale, que ce soit la recherche de Lauren Dawson ou la recherche de Scott Atran, qui est un Britannique très connu, qui est en ce moment sur les lignes avec l'armée, il fait des entrevues avec les djihadistes qui se font capturer en prison.
Ouais.
Donc, c'est des gens qui connaissent leur affaire. Ils disent toute la même chose. Hein? La religion a un lien. L'intégrisme, pas la religion, je dirais pas la religion, mais l'intégrisme religieux a un lien avec la radicalisation.
C'est clair, okay? Effectivement.
Alors, la recherche pointe vers ça. Pourquoi on ne veut pas faire le lien ici au Québec, notamment en ce qui a trait au gouvernement du Québec? Moi, je pense que c'est tout simplement une question politique.
Parce que de gauche ou de droite, c'est bien rare qu'un radical n'a pas un document religieux près de lui.
Oh, ça, c'est évident.
Ça dépend de votre définition de la religion.
Ouais.
Moi, j'avoue que j'ai une définition qui est assez large, étant spécialiste de la chose. C'est-à-dire, religion, vous savez, il y a des phénomènes qu'on appelle quasi-religieux. Comme par exemple, le nationalisme, quand c'est poussé à son extrême, c'est une vénération de la nation quasi-religieuse. Le véganisme, quand c'est poussé à son extrême, c'est une vénération quasi-religieuse de la nature.
Mais un petit peu à propos de ce sujet-là, je suis en train de lire le petit livre, Le choc des civilisations, de Samuel Huntington, puis il y avait une référence là-dedans que je trouvais absolument intéressante qui disait, bon, justement, dans son livre que je suis en train de lire, il fait référence au fait que toutes les grandes idéologies politiques du 20e siècle viennent d'Occident. Mais toutes les grandes religions du monde, en contrepartie, viennent de pays non occidentaux. Donc, ce qui fait référence dans son livre, c'est justement, c'est le fait que l'Occident perd de son pouvoir en matière internationale, fait en sorte que justement des aspects religieux font de plus en plus éruption dans les affaires de l'État, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, un petit peu partout dans la planète. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cette vision-là?
Le choc des civilisations de Samuel Huntington, là, c'est le professeur en moi qui va vous corriger. Très mauvaise lecture.
D'accord, allez-y.
Très mauvaise lecture.
Comme je vous dis, j'avais un huitième du livre.
Très mauvaise lecture, mais très en retard aussi, ça date de 20 ans.
Oui, ça, c'est clair.
Surtout qu'il doit avoir trois personnes à Longueuil qui lisent en ce moment.
C'est une thèse très, très, très controversée, d'ailleurs, dans le milieu académique. Et pourquoi cette thèse-là est refutée, c'est que, bon, par rapport à ce que vous disiez, la religion, vous savez, c'est nous qui l'avons apportée en Amérique. Hein, donc, il y a des religions aussi qui sont nées en Amérique, comme le mormonisme. Ça, c'est né en Amérique, c'est pas né en Europe. Là. Donc, déjà, ça marche pas. Et ce qui est sous-tendu dans la thèse qui est très, très politiquement à la droite d'Huntington, oui, c'est qu'il y aurait une supériorité civilisationnelle de la civilisation occidentale versus la civilisation moyen-orientale et tout ça, qui est amplement réfutée par l'histoire, par amplement de choses, mais qui alimente beaucoup un discours de droite et d'extrême droite. Mais c'est une thèse qui a été extrêmement réfutée. Je pourrais conseiller de meilleures lectures.
Oui. Après l'émission, vous ferez ça. Je voulais qu'on revienne, moi, sur un élément que vous avez dit tantôt, qu'il y avait des groupes d'extrémistes pas très loin d'ici, dans le fond, à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Ben, je suis au courant de certaines choses, des fois, par mes étudiants, d'ailleurs, qui viennent me voir, m'en parler, me disent, j'ai des étudiants, des fois, ils me disent, mes parents sont dans la meute. Qu'est-ce que je fais?
Ouais.
Et là, c'est difficile parce que on veut pas intervenir et dire tes parents ne sont pas corrects.
On va prendre les noms.
c'est ça, mais je sais qu'il y a des gens à Saint-Jean-sur-Richelieu qui sont membres de la meute, qui sont des pattes rouges, c'est-à-dire qui sont assez élevés dans la hiérarchie de la meute parce qu'ils se donnent des gradations. La meute, c'est comme un...
Ben, il y a plusieurs militaires aussi, on se le cache pas.
C'est des ex-militaires. Des ex-militaires. La meute va capoter.
Il reste encore des membres de la meute qui sont militaires, même s'il y a eu un mot d'ordre dans
Mais c'est ça, c'est des ex-militaires, puis le fonctionnement de la meute est très militarisé.
Oui, c'est ça.
Alors, il y a des grades.
Il y a de la hiérarchie, oui, dans la meute. Est-ce qu'il y a d'autres groupes radicaux près d'ici, Rive-Sud, par exemple? Longueuil, c'est quand même pas petit non plus.
Ben, écoutez...
À votre connaissance.
Écoutez... Est-ce que j'ai votre ami qui gesticule? Je ne sais pas s'il veut que je parle ou pas.
Non, c'est parce qu'il reste une minute à l'émission, c'est tout simplement ça.
Ah bon, OK. Il y en a. Écoutez, il y en a. On en a une certaine concentration à Québec, effectivement.
Ouais. Moi, j'ai été témoin d'actes. J'habite à Richelieu, puis cet été, il y a une petite campagne de la Fédération des Québécois de Sceaux, tout le long du canal Chambly, à plusieurs endroits historiques, il y avait des panneaux qui faisaient référence à ce qui se passait.
Oui, puis il y a un des plus violents, à mon avis, le groupe Atalante Québec, qui a mis des banderoles, même à Montréal, rémigration aussi. Donc, il y en a, mais comme je vous dis, que ce soit dans le cas des djihadistes ou même de ceux de l'extrême droite, c'est pas des gros nombres, là, OK? Faut s'entendre, là, que faut pas partir en peur, c'est des choses qu'il faut surveiller, mais qu'au Québec, quand même, on reste encore un endroit où il y a beaucoup de tolérance, là, tu sais. Quand on se compare, on se console, autrement dit, parce que si vous regardez dans d'autres pays du monde, même des pays européens, c'est pas mal plus...
C'est plus dur, effectivement.
Puis c'est cyclique aussi, là, généralement, de ce que je comprends. Tu sais, exemple, la Légion nationale, était une entité qui prédécédait la meute, puis aujourd'hui, on n'entend plus parler. Il y a plein de...
Alors, il semble que ce soit fini, messieurs. Ça a été trop intéressant et trop rapide aussi. Alors, on vous réinvite sans faute. Les gens peuvent aller aussi, j'imagine, sur votre site Internet pour en savoir un peu plus sur le CEFIR, donc le CEFIR. M. Geoffroy, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Super gentil. Passez un bon temps des fêtes. Puis à nos auditeurs, il me reste à vous souhaiter à vous aussi de joyeuses fêtes. On se retrouve en 2018 sans faute.
FM 103.3, 30 ans de soutien à la communauté.
FM 103.3.